Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. C'est l'un des écrivains les plus prometteurs de sa génération. Né au Vietnam, réfugié aux États-Unis avec sa famille après la chute de Saigon, Viet Thanh Nguyen a publié à 44 ans un premier roman fulgurant, Le Sympathisant, récemment traduit en français aux éditions Belfond. Prix Pulitzer 2016, entre autres nombreuses récompenses, cette fiction qui revient sur la guerre du Vietnam à travers les yeux d'un espion se lit comme un polar, mais porte un vrai regard sur l'histoire. Rencontre avec un auteur brillant de passage à Paris. Bonjour Viet Thanh Nguyen.
Hello, I'm glad to be here.
Votre roman met en scène un narrateur qui écrit ses aveux, car on le découvre en prison et à travers sa confession, c'est sa vie d'espion qu'il nous raconte. Un Vietnamien qui, pendant la guerre et avant la chute de Saigon, décide de travailler pour le renseignement américain, tout en étant une taupe pour les communistes. Pour commencer, une remarque, cet homme n'a pas de nom ni de prénom. Pourquoi ? Est-ce parce que la duplicité ne peut pas avoir d'identité ?
Well, I think the reason why he has no name is actually very simple in some ways.
Alors, je pense qu'il n'y a pas de nom pour une raison très très simple. Je voulais que ce soit un homme ordinaire, quelqu'un avec qui on puisse s'identifier facilement. Et j'ai pensé que si on lui donnait un nom vietnamien, d'une certaine manière, ça empêcherait les lecteurs non vietnamiens de s'identifier avec lui. Il y a évidemment aussi un deuxième aspect à la chose, hein. C'est-à-dire que c'est un espion qui toujours interroge sa propre identité puisqu'il est à moitié français, à moitié vietnamien. Il est communiste, il adore le capitalisme, il adore la culture américaine, mais il déteste les Américains et donc il se demande constamment, mais qui suis-je, hein? Donc du coup, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, cette absence de nom est un indice par rapport à sa difficulté propre avec son identité.
Effectivement, c'est tout un roman sur la question de l'identité. Une petite parenthèse personnelle, vous, Viet Thanh Nguyen, vous êtes né au Vietnam. Et votre famille a fui après la chute de Saigon pour venir aux États-Unis. Vous n'êtes pas de cette génération qui a connu la guerre, mais est-ce que ce roman est né de l'envie de comprendre vos origines, ce pays, une époque dont vous êtes issu mais que vous n'avez pas connu?
Yeah, I was born in Vietnam and came as a refugee to the United States.
Alors, je suis arrivée effectivement aux États-Unis à 4 ans comme réfugiée et j'ai grandi en ayant le sentiment que j'étais un Américain mais aussi un Vietnamien, hein. Le fait en fait d'être né au Vietnam, hein, c'était une connexion très importante pour moi. C'est pour ça que je n'ai jamais changé mon nom, par exemple, même si je me sentais totalement Américain. Mais je dirais que ce roman, c'est ma tentative d'offrir un point de vue différent sur cette histoire.
Et vos parents qui ont connu cette guerre, qui aujourd'hui sont aux États-Unis, comment est-ce qu'ils ont réagi?
I never actually told my parents I was going to write this book.
I think we have. Je leur ai jamais dit que j'allais écrire ce livre. Et j'ai même pas dit à mes parents d'ailleurs, hein, que j'avais gagné le prix Pulitzer. Mon père l'a appris à travers des membres de sa famille qui vivent au Vietnam et qui le lui ont dit, hein. Et donc mon père m'a appelé, hein, pour me dire que j'avais eu le Pulitzer et sa voix était pleine de joie. C'est une chose que j'avais jamais entendue, hein, et d'une certaine manière, tout ce que j'ai eu à faire, c'était gagner le prix Pulitzer pour qu'il soit fier. Et maintenant, donc, il a commencé à lire le livre en anglais. Mais je pense qu'il faut attendre vraiment la traduction en vietnamien pour que mon père puisse pleinement saisir ce livre. Et peut-être qu'à ce moment-là, on arrivera à en parler.
Donc, Le Sympathisant, c'est un roman sous le signe du double, de la dualité, guerre, paix, capitalisme, communisme, langue vietnamienne, langue américaine, agent de la CIA, agent du KGB. Et pour corser, votre personnage lui-même est issu d'une double culture, mère vietnamienne et père français, prêtre de surcroît et qui l'a abandonné. Pourquoi avoir choisi Viet Thanh Nguyen qu'il soit aussi déchiré dans son identité intérieure ?
Je voulais écrire un roman sur cette guerre et qui s'intéresse vraiment au caractère profondément duel de cette guerre, à cette opposition. J'avais le sentiment que, d'une certaine manière, si le personnage avait ça en lui, ça permettait de donner plus de sens à cette division. Et j'avais le sentiment que pour que les lecteurs se sentent plus proches et qu'ils n'aient pas l'impression juste qu'on leur fasse la leçon, c'était important que cette dualité soit à l'intérieur du personnage. Et d'une certaine manière, c'est l'incarnation de l'Est et de l'Ouest, et comme le fait qu'il y ait une espèce d'impossible manière de réconcilier les choses. C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui connaît très bien le capitalisme américain et qui en même temps a étudié le marxisme, et donc il comprend cette dualité et il est capable de vivre dans cette position qui est celle de l'outsider, de quelqu'un qui est toujours à l'extérieur. Et donc, d'une certaine manière, c'est inconfortable, mais ça lui permet de voir effectivement les situations complètement dans leur absurdité, dans leur aspect extérieur. Et je pense que d'une certaine manière, c'est ça qui le rend intéressant, parce que c'est un outsider.
Et pourquoi des origines françaises ?
He is someone who is engaged with the American war in Vietnam.
C'est quelqu'un qui est impliqué dans la guerre des Américains au Vietnam. C'est cette partie que le monde entier connaît le mieux. Mais le colonialisme français était très important au Vietnam et ça a été les prédécesseurs des Américains au Vietnam. Et je pensais que les deux occupations, on va dire, avaient besoin d'être discutées en même temps. Les Américains, ils ont tout simplement succéder aux Français. Ils ne voulaient pas, d'une certaine manière, que le pays devienne nationaliste ou devienne communiste. Et pour moi, c'était très important de prendre en compte ce colonialisme français. Et c'est pour ça que, avec cette double provenance de mon narrateur, ça me permettait de faire quelques commentaires sur le colonialisme français. Et puis, c'est un prêtre français qui est beaucoup plus âgé que la femme qui va porter son enfant. C'était un peu faire une espèce d'allégorie. Et c'était aussi comprendre d'une certaine manière comment la colonisation avait aussi été une espèce de viol du pays.
À ce titre, vous citez beaucoup la culture française, donc les Trois Mousquetaires de Dumas, ce qui s'explique aussi parce que ce personnage est très ami avec Man et Bonne, et que voilà, c'est ce trio d'amis va vraiment compter beaucoup dans le roman. Vous citez également Baudelaire, Camus, Simone de Beauvoir. Quel est votre lien, vous, avec la culture française?
Well, I'm Vietnamese, which means that I'm almost automatically,
ce qui veut donc dire que d'une certaine manière, je suis bien sûr automatiquement amoureux de la culture française, qui d'une certaine manière a marqué de son empreinte toute la culture vietnamienne. Les Vietnamiens se sont appropriés la nourriture française qu'ils ont ensuite ramenée. Il y a une très forte imprégnation aussi intellectuelle. Et cette culture impérialiste est d'une certaine manière exportée dans le monde entier. Aujourd'hui, on connaît la culture américaine parce qu'elle est exportée partout, mais antérieurement, c'était la culture française parce que c'était la puissance économique. Donc, en plus de la littérature américaine que je lis, c'était la littérature française que je lisais le plus. J'étais un grand fan des Trois Mousquetaires, du Comte de Monte Cristo. Un peu plus âgé, j'ai lu Voltaire. Et ensuite, j'ai lu Camus, et puis je connaissais bien le travail de Beauvoir et de Sartre, et beaucoup d'autres intellectuels français. D'une certaine manière, ça fait partie de mon héritage, de ce qu'on m'a légué, voilà.
Donc vous aussi, vous êtes pétri d'une double et peut-être triple culture, et pour votre personnage, on a l'impression qu'il le vit plutôt comme quelque chose de négatif parce qu'on le traite de bâtard. En revanche, sa mère lui dit « Mais non, tu n'es pas la moitié de quoi que ce soit, tu as tout en double. » Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous avez l'impression aussi d'avoir tout en double ?
Yes, I do, although not to the degree that my narrator
oui,
feels it.
Oui, tout à fait, pas autant que ne le ressent mon narrateur. Mais quand j'étais jeune, lorsque j'étais dans la maison de mes parents qui est très vietnamienne, j'avais le sentiment d'être un Américain qui est en train de les espionner. Et quand j'étais à l'extérieur, j'avais le sentiment d'être vietnamien en train d'espionner des Américains. Alors évidemment, c'est une condition qui est un peu inconfortable. Mais moi, j'ai senti que je devais cultiver, en fait, cette différence, cette condition d'être un Américain d'origine vietnamienne, hein, parce que d'une certaine manière, ça vous permet de éviter les tentations faciles comme le nationalisme. Puis comme écrivain, c'est aussi une position très très confortable parce que du coup, ça permet de comprendre les questions d'appartenance qu'on les ait ou qu'on ne les ait pas et qu'on se sente les avoir ou qu'on se sente les devoir.
Donc le sympathisant, pour revenir à votre roman Viet Thanh Nguyen, a fui Saigon, il se retrouve aux États-Unis, qu'il connaît très bien parce qu'il est déjà allé faire des études là-bas, et au gré de ses pérégrinations, il se retrouve impliqué dans un film intitulé Le Sanctuaire, réalisé par un cinéaste dont on ne connaît pas le nom, c'est juste l'auteur. Et il a décidé, cet homme, de faire un film sur la guerre du Vietnam. Sauf que sa vision est très partiale. Et votre narrateur va se battre pour que la représentation de ses compatriotes soit plus juste. Et il va réussir à modifier quelque peu le scénario. Et quelqu'un de son entourage lui dit « C'est formidable !» Je vous cite « Tu peux aider à faire évoluer l'image des Asiatiques au cinéma, ce n'est pas rien. » Fermez les guillemets. Est-ce que pour vous aussi, ce projet, c'est de faire évoluer l'image des Asiatiques en littérature ?
Absolutely, I think that was one of the reasons
why. Oui, tout à fait. Je crois que c'est une des raisons pour laquelle je suis devenue écrivain. C'était ma conscience que lorsque les Américains parlent du Vietnam, ils parlent de la guerre du Vietnam et ils parlent de la guerre contre les Américains. Ça veut dire aussi qu'il y a 50 000 Américains qui sont morts dans cette guerre, mais il y a 3 millions de Vietnamiens qui ont trouvé la mort, qu'ils ont tendance à oublier. Donc, ils voient cette guerre comme vraiment la leur. Mais ça, ça vient du fait que les États-Unis ont un pouvoir international. Ça veut dire que c'est aussi comme ça, d'une certaine manière, que le reste du monde se souvient de la guerre du Vietnam. Et donc, quand je regardais tous ces films américains sur la guerre du Vietnam, je voulais, évidemment, partout où que vous alliez, hein, les gens, ils ont vu ces films américains sur la guerre du Vietnam. Et je sentais qu'il y avait une autre guerre qui était là, une guerre de mémoire, et j'avais le sentiment que c'était mon travail, ma responsabilité est de prendre une revanche aussi. Et donc, évidemment, dans le roman, mon narrateur est en train d'essayer de changer les choses par rapport à ce film, à Hollywood. Il échoue, hein, d'une certaine manière. Il n'arrive pas à vaincre la machine hollywoodienne parce qu'elle est tellement puissante. Mais j'ai écrit ce roman d'une certaine manière pour corriger, pour critiquer. Mais il y a évidemment cette peur, que je ne puisse moi non plus échapper à cette machinerie, parce que il y a toujours ce mécanisme incroyable du pouvoir de la culture américaine contre lequel peut-être je risque d'échouer moi aussi.
À une différence près, c'est que Apocalypse Now, parce que c'est certainement le film auquel vous faites référence, et derrière la figure de l'auteur, je pense qu'on peut vraiment deviner la personnalité de Francis Ford Coppola. À cette différence, donc, disais-je que c'est un film de 1979 et que vous arrivez 20, 30 ans après et que peut-être c'est plus facile de faire bouger les lignes et les frontières.
As a writer, I have to believe in the power of literature.
Comme écrivain, bien sûr, il faut que je croie au pouvoir de la littérature pour apporter le changement. C'est pour ça que j'écris, d'ailleurs. Maintenant, je suis pas sûre qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent plus de livres aujourd'hui. Il faut que je sois réaliste sur le fait que de quoi parlons-nous aujourd'hui? Est-ce qu'on parle d'Apocalypse Now ou de films contemporains? On parle de films qui ont coûté 100 ou 200 millions. traductions et qui sont diffusées dans le monde entier. Hein, et voilà, un très bon roman va avoir 100 000 lecteurs tout au plus s'il a du succès. Et j'espère que donc, d'une certaine manière, il peut y avoir un effet de rond dans l'eau, vous voyez, qui s'étend comme ça de la littérature. Hein, et c'est juste un tout petit roman contre cet énorme pouvoir en face d'une culture très forte.
Certainement, mais comme disait Mao, l'art et la littérature sont essentiels à la révolution. Donc il faut y croire.
Yes, of course, I believe in that. You know,
oui, évidemment, j'y crois. Hein. Et je me vois comme un écrivain politique qui est engagé dans cette tradition des écrivains politiques où on dit que les mots peuvent faire partie de la révolution. Mais la révolution a aussi façonné la littérature. Donc on est sur des choses qui fonctionnent ensemble. Hein. Il n'y a pas l'une avant l'autre. Et je dirais que ma fonction comme écrivain, et j'essaye de le faire de mieux que je peux, c'est de présenter une vision différente, une vision alternative, et j'espère que le roman fonctionnera en écho avec les mouvements sociaux d'aujourd'hui.
Alors, s'il est vrai, comme on le dit depuis le début de cette émission, que Le Sympathisant est un roman sur la duplicité, l'exil, la trahison, l'amitié, encore une fois avec Man et Bon, les deux meilleurs amis du protagoniste, les idéaux, la famille, c'est aussi une grande réflexion sur la littérature. Parce que, je le rappelle ici, nous lisons la confession de votre narrateur. Mais dans la mesure où c'est un espion, donc un menteur, comment peut-on croire vraiment ce qu'il raconte et ce que vous nous racontez? Est-ce que c'est une façon de dire aussi que la fiction est pur mensonge?
The novel is told as a confession of our narrator.
Effectivement, est écrit comme la confession du narrateur quand il se trouve dans un camp de rééducation, obligé d'écrire cette confession. Donc évidemment, à ce moment-là, on peut penser qu'on ne va pas prendre ce narrateur comme une personne de confiance. Hein, qui est-il pour qu'on le croie? Mais après, on peut penser au rôle de la confession dans la rééducation communiste. Hein. On sait que la personne qui écrit cette confession ne confesse pas ses péchés, mais il confesse les péchés que, croit-il, son enquêteur lui demande de raconter. Hein. Donc c'est quelque chose qui est exploité dans le livre, et je dirais que c'est aussi un commentaire sur la fiction. Effectivement, est-ce que la fiction est quelque chose de véridique? Est-ce que c'est un mensonge? Il y a d'une certaine manière quelque chose qui, dans la fiction, parce que c'est construit, c'est quelque chose qui est plus vraisemblable et quelque chose qui a plus de poids.
Pour finir, quel est votre sentiment à vous personnellement envers ce sympathisant?
Well, my personal feeling about the sympathizer is that I love this guy.
Alors, mon sentiment personnel, c'est que je l'aime, hein, ce type.
He is a spy.
C'est vrai que c'est un espion, c'est vrai que c'est un menteur, un alcoolique, c'est un dragueur, c'est un traître, c'est un meurtrier. Alors, c'est pas forcément des qualités, tout ça, très positives. Mais quand j'écrivais le roman, ce roman m'a pris à peu près 2 années, je me suis tellement amusée à épouser son point de vue, exploiter les côtés de sa personnalité qui ne le rendaient pas très aimable. Et mon agent m'a dit, il n'est pas très sympathique ce personnage. Et je lui ai dit, mais à moi, il m'est sympathique. Et j'ai essayé de comprendre ce qui le motivait. Et je me suis dit que c'était un personnage qui était tout à fait unique, tout à fait exceptionnel. Et qu'il avait donc des raisons pour les choses terribles qu'il fait. Après, il y a d'autres choses qu'il fait pour lesquelles il n'a pas de justification non plus. Mais je crois que c'est un être humain, tout simplement, avec ses tragédies. Mais je l'aime. Et même quand il faisait les pires choses, je l'aimais aussi.
Merci beaucoup, Viet Nhan Nguyen. Je rappelle le titre de ce roman qui a donc obtenu le prix Pulitzer en 2016 et qui a apparu sous le titre en français Le Sympathisant et traduit de l'anglais par Clément Baude aux éditions Belfond. Merci beaucoup à Pascal Fougère qui a traduit vos propos tout au long de cet entretien.
Merci.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.